Mais que fait l'Europe ? L'actualité des 28 dans l'espace Europe.
Hier, lundi 4 décembre, devait être le jour où l'on avait une bonne nouvelle concernant le douloureux divorce entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Une occasion pour Theresa May et Jean-Claude Juncker de pouvoir affirmer aux États membres que le premier round de discussion sur le Brexit était bouclé, que les différences étaient aplanies, bref, que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Il n'en a rien été, puisque les deux acteurs du dossier ne sont pas réussis à se mettre d'accord. Réaction de surprise et de déception de la part du premier ministre irlandais, Leo Varadkar, car c'est précisément sur le dossier irlandais que cette première discussion sur le Brexit accroche. Bonsoir à vous, Hervé Jean-Jean.
Bonsoir.
Bienvenue par chez nous. Vice-président du think tank Confrontation Europe, on vous a vu aussi diriger pendant plusieurs années la direction générale du budget de la Commission européenne jusqu'en 2014. On va rappeler ensemble que depuis juin dernier, il y a eu trois grands enjeux de négociation dans ce premier round entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Il y a le sort des expatriés européens au Royaume-Uni et inversement, les Britanniques dans l'Union. Il y a l'avenir de la frontière irlandaise et le règlement financier des engagements de Londres déjà pris au sein de l'UE. On commence par quoi, Hervé Jean-Jean ? Je vous laisse l'honneur.
Mais commençons par les bonnes nouvelles.
Ah, parce qu'il y en a.
Il ne faut pas cacher les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que selon les informations dont je dispose et ce qu'on peut lire dans la presse, c'est que sur le budget, la question est réglée. Et elle est réglée évidemment dans le sens de l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle pour les contribuables européens parce que ça veut dire que les contribuables de l'Union européenne à 27 n'auront pas à payer pour les dépenses auxquelles le Royaume-Uni a souscrit en tant qu'État membre. Donc c'est un bon point. Le deuxième point, je crois, positif, c'est en effet que la question du statut des travailleurs européens sur le territoire britannique, et d'ailleurs des travailleurs et citoyens, britannique sur le territoire européen est en passe aussi d'être réglé. Je crois comprendre que les droits de ces citoyens se seront couverts sur la base des concepts du droit européen et qu'il y aura une primauté de cet accord par rapport aux législations nationales, ce qui protégera évidemment les citoyens européens établis au Royaume-Uni et qui auront bénéficié d'un statut, qui bénéficieront d'un statut particulier à partir du moment où le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne. Alors il reste à régler sur ce point encore le rôle de la Cour de justice. C'est pas évident, mais je pense que c'est tout à fait gérable. La question de l'Irlande, elle, est bien plus difficile. Voulez-vous que j'en dise quelques mots ?
Ouais, on va en discuter quelques mots, juste pour conclure rapidement sur les deux premiers éléments. 100 milliards d'euros, hein, grosso modo, peu ou prou les engagements pris par la Grande-Bretagne, calculés par l'Union européenne. On pourrait effectivement estimer que cette question soit réglée. Moi, j'attends de voir le truc noir sur blanc, hein, Hervé Jean-Jean, pour voir effectivement si « we want our money back » du côté de l'Union européenne, si ça marche du côté des Britanniques, ça c'est pour sûr. C'est vrai que ça a été un des très très grandes discussions, savoir si la Cour européenne, Cour de justice de l'Union européenne pouvait avoir... la priorité sur le droit interne de Grande-Bretagne, en tout cas pour ce qui concerne les ressortissants européens en Grande-Bretagne, c'est aussi une des grosses questions. Mais plongeons donc sur le côté le plus croustillant, puisque sur l'affaire de la frontière entre Irlande du Nord et l'Irlande, le gros problème, c'est que ça fait référence en fait aux alliances politiques que Theresa May a passées pour se maintenir au pouvoir.
Oui, là-dessus, franchement, je ne commenterai pas. Mais en effet... c'est clairement lié à cette situation. Cela dit, ce n'est que l'illustration de la situation en Irlande du Nord. Et alliance ou pas, il y a un problème. Je peux bien comprendre que du côté des Irlandais et du Nord, des unionistes, on soit nerveux. Parce que il est en effet très très difficile de trouver une solution à ce problème qui, d'une manière ou d'une autre, ne conduise pas à une spécificité de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Les idées qui sont actuellement sur la table et qui consisteraient à permettre l'application des règles européennes en Irlande du Nord, de facto, conduiront en effet à cette différenciation qui devra ensuite être traduite dans les faits en matière de contrôle. Alors, ça permettra de garder cette porosité qui existe actuellement entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, dans des circonstances tout à fait nouvelles. Mais clairement, ça repose la question du contrôle aux frontières de l'Irlande du Nord, entre guillemets, frontières avec le Royaume-Uni.
Ce qui pose problème aussi, c'est qu'on a quand même un lourd passé de guerre civile sur le dossier de l'Irlande du Nord. Et sous aucun prétexte veut-on voir une nouvelle fois en Europe, et notamment en son sein, voir surgir encore les armes sur une question frontalière et de guerre entre communautés. Ça, c'est absolument inenvisageable.
Bien entendu, et c'est tout à fait le point de vue de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne a été particulièrement active et qu'elle est notamment un de ceux qui ont soutenu le Good Friday Agreement. Et nous avons en particulier apporté beaucoup de moyens financiers pour permettre la réussite de cet accord. La Commission a été très active et l'ancien président de la Commission, José-Manuel Barroso, a été lui-même très, très présent sur ce dossier. Alors, ce qui peut, en effet, il n'est pas question d'une manière ou d'une autre de se retrouver dans une situation où les deux communautés seraient amenées à voir les tensions renaître. Donc du côté de l'Union européenne, nous sommes prêts, je dirais, à faire beaucoup. Mais encore, il faut bien que l'on protège aussi l'intégrité du marché intérieur. Et d'une certaine manière, on est en effet ici dans une zone de frottement entre, d'une part, une souveraineté européenne qui s'exerce à la frontière extérieure. Et la frontière extérieure, c'est la frontière de l'Irlande, de la République d'Irlande avec l'Irlande du Nord. C'est la souveraineté européenne. Et puis aussi, il y a la souveraineté britannique qui s'exerce aussi sur l'Irlande du Nord. Et si on vient en effet à assouplir la situation en Irlande du Nord, je peux comprendre que les plus difficiles du côté irlandais soient mécontents. Techniquement, je pense que l'on peut arriver à des solutions. Pourquoi ? Parce que la République d'Irlande, et évidemment le Royaume-Uni, et a fortiori à l'avenir, n'appartiennent pas à Schengen. Donc déjà, la problématique du contrôle des personnes est réglée d'une certaine manière parce que on les contrôle lors de leur arrivée de la République d'Irlande sur le territoire des membres Schengen. C'est donc un problème essentiellement, enfin purement marchandise. Et pour ces questions de marchandises, on peut là aussi trouver des solutions, y inclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que tout cela doit se faire évidemment dans le respect des règles internationales. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On a des exemples devant nous qui sont tout à fait précis. Hong Kong a un statut spécifique par rapport à la Chine, même si Hong Kong a rejoint la Chine après le recours de la colonie britannique dans le giron chinois. Il y a des dispositions du GATT, pour parler technique, qui permettent de traiter certains problèmes de trafic frontalier. Est-ce qu'on pourrait les appliquer dans la relation Irlande du Nord, Irlande-République d'Irlande? Pourquoi pas? Je pense que c'est là-dessus que travaillent les experts. Mais il faut un peu de bonne volonté du côté britannique pour régler ce problème. Et à mon sens, Michel Barnier a parfaitement raison de dire que c'est un problème que les Britanniques ont créé. Tout marchait très bien et tout marche très bien tant qu'ils ne sont pas sortis. C'est aussi à eux de contribuer à la solution du problème.
Ouais, tout à fait. Moi, c'est juste un dernier mot de commentaire à vous demander, Hervé Jean-Jean. Juste dans les 30 dernières secondes de notre émission, c'est quand même dingue de voir autant de temps que ça a mis et qu'on n'arrive toujours pas à un accord, alors que là, il s'agit juste d'un premier round de négociations sur trois thèmes qui sont certes très compliqués, on est d'accord. Mais il en reste d'autres. Est-ce que ça présage de mauvaises choses pour l'avenir ?
Ce sera difficile. Ça, c'est le premier set, mais à mon avis, il y en aura cinq. Donc, en effet, on a quatre sets parce que dans la négociation à venir, la grosse problématique va être, encore une fois, comment gérer la zone de frottement entre la souveraineté européenne et la souveraineté britannique. Les Britanniques voulant, certainement pour des raisons commerciales, manger autant qu'ils peuvent de la souveraineté européenne, et les Européens, eux, voulant absolument sauvegarder leur identité, leur unité au sein du marché intérieur. Ce sera un grand débat et j'allais dire un grand combat.
Oui, pour les mois à venir. Les commentateurs vont s'en donner à cœur joie, et nous aussi d'ailleurs, j'imagine. Hervé Jean-Jean, merci beaucoup.
À bientôt.